transmettre cette information, et ils s'en fichent, tu peux mettre ce que tu veux dedans.
Ça peut être un texte, juste un message, par exemple.
Ça peut être du texte, voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être du texte. Par exemple, il y a des gens qui ont créé ce qui s'appelle Memo.cache. Donc, c'est un peu un système qui ressemble à Twitter. Et donc, ça utilise justement les données dans les transactions, et ça met des tweets, du coup, parce que c'est pas sur Twitter, mais l'équivalent de tweet dans les transactions. Puis après, tu as une interface sur laquelle tu peux lire tout ça. Et donc, il y a des gens qui utilisent cette technologie aussi pour faire des tokens. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un logiciel spécial qui se connecte à un nœud BCH et qui va processer ce qui passe sur la chaîne et qui va interpréter ce qu'il y a dans ces op returns s'ils correspondent au protocole du token, et qui va du coup déterminer les règles des tokens. Du coup, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quelle règle, en fait. C'est pour ça qu'on voit plein de technologies de tokens qui sont en train d'être déployées là. Sur ces quelques derniers mois, il y a peut-être une dizaine de différentes techs qui ont été déployées.
Ces tokens, est-ce qu'ils servent vraiment l'objectif de Bitcoin Cash, qui est d'être le cash électronique?
Je sais pas vraiment, mais en même temps, tant que c'est pas un problème par rapport à l'usage du cash, je vois pas, je vois qu'il, enfin, tu vois, si les gens veulent faire ça, c'est une plateforme, les gens construisent ce qu'ils veulent par-dessus. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis plus intéressé au côté cash, c'est pour ça que je suis pas tous les derniers lancements de token et tout ça, je saurais pas te dire tous les détails.
Mais par exemple, une autre manière de peut-être poser cette question, c'est là, par exemple, on parlait de Nemo. Donc, vous pouvez aller visiter nemo.cash. Là, c'est vraiment comme Twitter. Et puis, tu peux, les messages, en fait, la différence avec Twitter, c'est que, quoi qu'ils essaient de faire ça de plus en plus, les messages sont inscrits de manière définitive. Ça va être impossible de les supprimer. Ils sont dans la blockchain. Ils sont incensurables. OK? Mais imaginons, par exemple, cette application, elle se répand. Et puis, soudainement, les gens qui veulent pouvoir s'exprimer ou dire des choses qu'on veut, qui veulent pas être bloqués, là, ils vont commencer à utiliser beaucoup Nemo.cache. En fait, ils vont commencer à occuper de l'espace dans les blocs. Et cet espace qu'ils occupent, il sert pas à faire des transactions qui sont du cash. Et en fait, ils augmentent le prix de nos transactions, enfin, de ma transaction, par exemple, parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Alors, les blocs font 32 mégas. Je sais, il y a de la marge, mais imaginons que ça se répand et que tout d'un coup, il y a 30 mégas du bloc qui sont remplis de tweets Nemo. Je leur souhaite là au service Nemo, mais ils sont vraiment remplis. Il n'y a plus que 2 mégas pour les transactions. Peut-être que je vais devoir payer un peu plus et se retrouver dans une situation similaire à celle de Bitcoin, non? Enfin.
Probablement pas, parce qu'est-ce que tu paierais $35 pour poster un truc sur Twitter?
Ok, d'accord, mais imagine qu'il y en a plusieurs des services comme ça. C'est juste genre dans le concept. Imagine qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le tweet. Il y a plein d'autres trucs là. Il y en a certains qui sont utiles pour certaines parties du monde.
Ben, le truc, c'est que s'il y en a qui sont utiles et qui sont tellement utiles que les gens sont prêts à payer $30, ça va probablement amener énormément de ressources dans l'écosystème. Et ces ressources, tu peux aussi les utiliser pour scaler le bidule, tu vois, genre pour embaucher plus d'ingénieurs, pour quand tu grossis l'écosystème, ça c'est un truc les gens qui grossissent des business ont l'habitude de voir, les gens qui sont plus dans le domaine de l'ingénierie, pas tellement. Mais des fois, tu vois, tu vas voir un ingénieur et tu vas leur dire, bon, bah voilà, nous on a besoin de grandir la capacité de temps. Ils vont te dire, bah voilà, bah avec l'équipe qu'on a et les ressources qu'on a, c'est pas possible, on pourra pas faire marcher ça et tout. Sauf que si tu y vas, tu mets ça sur ta roadmap, hein, tu vois, genre Facebook a un peu plus de 10 ans maintenant. Il y a 10 ans, avec l'équipe qu'ils avaient, ils pouvaient pas gérer 2 milliards d'utilisateurs comme ils le font maintenant, tu vois. Et donc si Mark Zuckerberg va voir son équipe d'ingénieurs et fait, bon bah voilà les gars, faut désigner un système qui peut supporter 2 milliards d'utilisateurs, les ingénieurs auront probablement dit, non, mais c'est
Non.
pas... Il n'y a aucun moyen qu'on puisse faire ça.
Est-ce que quand il s'agit de la blockchain, c'est pas différent? C'est pas plus délicat? Il suffit pas d'acheter des nouveaux serveurs,
Non, mais
d'avoir plusieurs bases de
c'est
données?
pareil. Non, mais c'est pareil quand tu grandis d'autres systèmes. En fait, c'est pas juste acheter des serveurs. Il faut que tu designes le système d'une telle façon que si tu achètes plus de serveurs, tu es aussi capable de les exploiter.
Est-ce que cette façon de le designer, elle est connue actuellement pour genre scaler la chaîne Bitcoin Cash à l'infini?
À l'infini, non.
Ok.
Mais
J'exagère un
on peut
peu, mais tu vois
aller
ce que je veux
beaucoup plus
dire.
loin. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a.
Ok.
Le bottleneck à l'heure actuelle, c'est plus un effort d'ingénierie que de pas savoir comment faire.
Ok, très bien. Alors, on va arriver au fork ABCSV. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce qui a mené à ce fork-là, ce qui s'est passé un peu avant et puis ce qui a mené?
Ben, on en a parlé un peu, en fait. C'est un peu une différence une différence de philosophie. C'est-à-dire que tu as des gens qui étaient là, bah, nous, on veut Bitcoin comme c'était en 2009, hein, et rien d'autre, rien changé.
Donc, c'est le changement de la difficulté, par exemple.
Ouais. Alors, pour l'instant, ils l'ont pas rechangé, parce que bien qu'ils disent que c'était pas bien et tout machin, s'ils le changent maintenant, ils meurent. Donc,
il est resté comme ça, ok.
Ils sont pas toujours hyper consistants dans leurs principes, hein. Mais l'idée, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que si tu vas parler avec les supporters de SV, ils vont te dire que ils veulent rechanger la difficulté, l'ajustement de la difficulté comme c'était avant. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments à part l'ajustement de la difficulté qui ont mené au fork? Il y a eu d'autres contentieux là?
Oui, bah ils étaient contre CETOR parce que Canonical Transaction Ordering dont on a parlé avant, parce que les transactions doivent être dans n'importe quel ordre dans le bloc. C'était comme ça dans les premières versions, donc ça doit être comme ça toujours. Ils sont contre le pré-consensus aussi parce que c'était pas dans les premières versions, donc on peut pas faire ça. Enfin bon voilà quoi.
Et du coup, SV, c'est pour Satoshi's Vision, donc la vision de Satoshi, comme la vision originelle là, mais c'est quoi leur vision à eux pour la monnaie SV? Est-ce que c'est d'être le cash de l'écosystème des cryptos, comme Bitcoin Cash, ou est-ce que c'est une mission différente?
Moi, pour ces trucs-là, tu vois, en général, j'écoute pas trop ce que les gens y disent, je regarde ce qu'ils font.
Ok.
Ça te donne souvent des informations beaucoup plus claires. Okay. Parce que là, si tu regardes ce que SV y disent, ils vont te dire, bon, ben, on peut pas de replay protection avec Bitcoin Cash, puis finalement ils en veulent, puis finalement là ils redisent qu'ils en veulent pas, puis ils te disent bon alors c'est la quantité de hash rate qui doit mettre les décisions, puis finalement ils ont moins de hash rate, mais c'est quand même ça la bonne décision parce que c'est pas la bonne sorte de hash rate, tout ça, enfin bon. Et les narratives n'arrêtent pas de, tu vois.
Bouger, ok.
N'arrêtent pas de bouger. Maintenant, ce qui semble consistant dans ce qu'ils font dans les actions, c'est même pas tellement revenir aux versions originales, parce que même les opcodes qui sont restaurés, qui étaient dans les versions originales, en fait, c'est pas exactement les mêmes que dans les versions originales. Ils veulent pas aussi réintroduire, par exemple, la façon dont les transactions sont signées dans Bitcoin Cash est différente de comment c'était dans la version originale de Bitcoin. Bon, pour différentes raisons, mais je dirais enfin il y a tout un tas de raisons, mais une des raisons c'est que il y a un bug, enfin c'est pas un bug, c'est un problème de performance, c'est quadratic hashing, c'est-à-dire que dans Bitcoin, pour les transactions qui n'utilisent pas SegWit, ou ce qui existait pendant toute l'histoire de Bitcoin avant SegWit et avant Bitcoin Cash, quand ta transaction est deux fois plus grosse, en fait ça prend quatre fois plus de ressources de vérifier la signature. Si elle est trois fois plus gros, ça va prendre neuf fois plus, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la difficulté est quadratique. Donc ça, c'est un gros problème, surtout si tu veux augmenter la taille des blocs et avoir de plus en plus de transactions. Il faut que tu sois sûr que vérifier ces transactions, c'est pas trop cher. Donc ils veulent pas revenir sur ce genre de truc. Enfin, tu vois, ils semblent pas tellement, aller vers ce qu'était 0.1, même si ça semble être un point fort du discours. Moi, ce qui me semble plus, ce qu'ils essayent de faire, c'est un, et sur ce point-là, je pense qu'ils ont raison, en fait, c'est d'avoir une roadmap et de suivre cette roadmap. À l'heure actuelle, tu as surtout Enchain, en fait, qui détermine la roadmap de SV. Enchain, il dit on fait ça, et tout le monde est là, ok, on fait ça, et puis voilà.
Donc Enchain, c'est la compagnie dont fait partie Craig Wright, donc la personne dont on entend le plus parler. Je le dis parce que c'est la personne dont on entend plus parler quand on parle de SV. Donc en fait, c'est comme c'est quel rôle qu'il a au sein de Enchain?
Son rôle, c'est Chief Scientist, je crois.
Exactement, Chief Scientist, comme ça. Ok.
Donc voilà, donc Enchain, c'est l'entreprise qui développe le principal pour SV, et c'est eux qui décident très clairement. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, donc nous on est Enchain, on a cette roadmap, on fait ça, voilà. Donc tu sais ce qui va se passer. Alors que sur BCH, il y a différents groupes qui développent le truc, c'est plus décentralisé, mais du coup c'est un peu moins clair aussi sur où est-ce que ça va. Ça c'est un truc que depuis. Depuis le début, en fait, c'est un truc que j'essaye de faire, que ça s'améliore sur le BCH, mais il me semble qu'il y a des gens dans la communauté BCH qui veulent pas, en fait, pour ça. Moi, je pense que c'est un problème parce que du coup, les gens qui veulent construire sur le BCH, ils ont besoin de savoir sur le moyen terme à quoi s'attendre. Parce que s'ils ont des business ou des trucs comme ça, bah, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer. Donc ça, je pense que c'est un bon point pour SV, et je pense que c'est probablement ce pourquoi la chaîne n'est pas morte. Maintenant, ça c'est pour le bon point. Maintenant, pour les mauvais points, je pense que leur roadmap, elle a vraiment aucun sens. Par exemple, là, ce qu'ils ont fait en novembre, c'est augmenter la taille des blobs jusqu'à 128 mégas, mais ils ont essayé de, enfin ils ont essayé, ils ont produit un blob de 64 mégas en novembre. Enfin, je sais plus quelle date, mais ils ont publié un blob de 64 mégas et ça a pratiquement détruit leur réseau. Il y a plein de nœuds qui sont partis. Il y a plusieurs blocs qui ont été orphanés. Le bloc a mis, je crois, quelque chose comme une demi-heure pour se propager sur le réseau. Enfin, c'était un désastre total. Si c'est, enfin, tu vois, c'est pas trop grave parce que c'était un bloc, tu vois. Mais si c'était l'état normal du réseau, ce serait un désastre total, en fait. Parce que ce qui se passerait, c'est que tu aurais plus, si le bloc met plus de 10 minutes à se propager. Alors, ce qui se passe, c'est que tu as plus de blocs qui sont produits que le réseau est capable de converger, tu vois. Donc,
Donc le réseau se divise complètement.
voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va partir sur ses propres branches et ça va brancher de plus en plus rapidement que le réseau est capable de réconcilier les branches. Donc, pour que le système fonctionne bien, tu as besoin, enfin, tu as besoin d'être capable de valider et de transmettre un bloc sur le réseau dans un temps qui est très court comparé au temps des blocs, hein. Donc, le temps des blocs sur Bitcoin, c'est 10 minutes. Donc, tu as besoin d'avoir un temps qui est très court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très court? En fait, c'est pas un truc binaire, mais enfin, tu vois, si ce temps, il est instantané, et bah, tout est parfait, il n'y a aucun problème. Si ce temps, il est de 10 minutes, et bah, il n'y a plus rien qui marche. Et puis après, entre les deux, tu vois, ça devient progressivement pire, quoi. Donc, tu veux rester dans la zone, disons, où ça prend quelques secondes, peut-être 10 secondes, 20 secondes au pire, mais après ça, tu veux pas trop aller là, quoi. Je pense qu'ils ont la bonne approche en tant que, tu vois, genre,
Ils ont le roadmap.
c'est ça qu'on fait et tout machin. Par contre, leur roadmap, bah justement, leur roadmap, elle est décidée essentiellement par Craig Wright et la roadmap, c'est on fait ce que Craig Wright veut faire, quoi.
Et là, je vais poser une question peut-être un peu délicate, mais tu sais, nous, enfin moi en tout cas de l'extérieur, la seule chose dont j'entends parler par rapport à ce fork, c'est ce que Roger Ver il veut et Bitmain, et ce que Craig Wright il veut et puis Enchain. Du coup, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, ou est-ce qu'en réalité, pendant que nous on voit ces conversations, qui, il faut être honnête, hein, quand on voit les mails qui s'échangent, tout ça, tu sais, ça peut sembler de l'extérieur qu'il n'y ait pas de problème technique ou de désaccord vraiment sur le concept, mais que c'est juste comme deux personnes qui se prennent la tête, quoi, qui sont pas d'accord et qui flexent un peu là, qui veulent se battre. Est-ce qu'il y a vraiment une conversation technique qui supporte ces forks, ou est-ce que c'est vraiment une ou deux personnes là dont on entend beaucoup parler qui tirent un peu et qui disent oh, ok, il y en a marre maintenant?
Bah c'est surtout Craig, hein, qui crée énormément de conflits, en fait. C'est son modus operandi. Il a été attaqué à peu près tout le monde dans la communauté BCH les uns après les autres.
Et est-ce que tu as une idée de où il veut en venir, ou
Enfin, oui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir de l'attention portée sur lui, et démarrer des clashs, c'est un très bon moyen d'attirer beaucoup d'attention. D'ailleurs, tu vois qu'après le fork, la communauté BCH a porté moins d'attention à Craig, et elle a commencé à s'attaquer à Ripple et à d'autres trucs comme ça, et à faire des claims, des déclarations qui sont encore plus grandioses et encore plus absurdes, et sur
lesquelles
il y a encore. Par exemple, il y a tu vois, toute l'histoire du Metanet et tout ça. Donc là, c'est son modus operandi, si tu veux. Il veut maintenant qu'il est sur son propre fork, et eh ben il a moins d'attention qui vient de la communauté BCH, donc il a besoin, tu vois, de augmenter le volume sur le genre de promesses qu'il fait, et il a besoin aussi de commencer à poquer d'autres communautés pour essayer d'avoir le déficit, pour essayer de récupérer son déficit d'attention, quoi.
Mais du point de vue technique, du point de vue de sa vision par rapport à la
Du point de vue technique, il n'y a que dalle, hein.
Okay.
Enfin, si tu suis depuis longtemps, il a fait que faire des promesses et puis pas délivrer. Par exemple, il a dit que il pourrait faire du bilinear pairing sur bon, c'est des trucs de cryptographie, mais en gros, il y a une certaine courbe qui est utilisée pour les signatures pour Bitcoin. Avec certaines courbes elliptiques, mais pas celle qui est utilisée sur Bitcoin. On peut utiliser une technique qui s'appelle le bilinear pairing, qui permet de faire différents trucs qui sont assez cool, comme les Zcash Snark, par exemple, qui sont utilisés pour Zcash. Et donc voilà, donc il a dit qu'on pourrait faire ça sur la même courbe. Effectivement, bon, ça s'est jamais passé. Il a dit qu'on devait avoir les confidential transactions en mai, ça s'est jamais passé. Enfin voilà, son modus operandi, c'est de faire des grandes promesses, et puis de toute façon, d'ici que tu arrives à la deadline de la promesse qu'il a faite, il a fait 5 autres promesses qui sont encore plus incroyables, et du coup, t'as un peu oublié la première. Mais maintenant, il arrive à un stade où il est là, bon bah voilà, maintenant je vais révolutionner l'internet et tous les autres cryptos, parce que bah voilà, tu vois, il faut que tu il faut que t'escalades le truc, si tu veux, sinon ça marche plus. Donc il va escalader jusqu'à ce que tout se pète la gueule BitConnect style, quoi.
Et lui, ça fait longtemps qu'il est présent dans la communauté crypto là, Craig. Ça fait très longtemps que il est comme important dans la communauté crypto là.
Important sûrement, tu vois.
Important, genre, on en entend parler, c'est ça que je veux dire principalement, genre.
On entend beaucoup parler, ouais. Mais alors, pas grand chose à part parler.
Ok, bon, bah c'est peut-être que c'est, on a ce qu'on mérite dans la communauté crypto si on donne l'importance à. Ok.
Complètement, et je pense que c'est une grosse leçon pour la communauté BCH quand même, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans BCH. Qui voulaient croire en Craig, qu'on était prêts à un peu mettre de côté tous les trucs un peu sketchy, parce qu'il faut se rappeler, au début quand même, il disait qu'il était Satoshi et qu'il allait produire des preuves.
Je pense qu'il l'a écrit dans le mail qu'il a envoyé, dans l'échange qu'il a eu avec Roger Ver à propos du fork il y a genre quelques semaines, hein. C'est pas, il le disait.
Ouais, il le dit plus publiquement maintenant, en tout cas, mais effectivement, avant il le disait qu'il allait faire des preuves et puis il a pas donné de preuves. Et puis après, il disait que bon, bah voilà, maintenant il fera plus aucune interview et tout ça. Tu peux retrouver ces vieux trucs, en fait. Et bon, alors, j'ai tout ce qu'il peut pour être devant n'importe quelle caméra. Donc à un moment, tu t'amènes ce genre de personnes dans ta communauté, et ben il faut t'attendre. Le meilleur prédicteur du futur est encore, tu vois, de regarder le passé et d'assumer que les gens vont se comporter de la même façon.
Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire, de ton point de vue à toi, donc ce qui s'est passé, tu l'as évoqué rapidement, mais ce qui s'est passé depuis ce fork. Donc tu sais, nous de l'extérieur, après le fork, ça s'est passé Hash Wars. Donc ça s'est appelé comme ça là. Et puis c'était genre ABC ils ont plus de cash, SV ils ont plus de cash, ABC ils ont miné plus de blocs, SV ils ont miné plus de blocs. Et c'est genre comme une compétition. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, de ton point de vue à toi, depuis ce fork?
Pas grand-chose, except que ça a créé beaucoup d'incertitudes. Du coup, ça se reflète dans le prix, évidemment. Donc c'était très négatif. Je pense que personne n'a rien gagné dans cet événement. Il y a juste qu'on a perdu plus que d'autres, quoi.
Ok.
C'était complètement débile. Mais bon, voilà, tu sais, quand, enfin, si t'as quelqu'un qui déclare la guerre, t'es obligé de te battre, quoi, même si ça n'a aucun sens. Hein.
Ok, non, je vois, c'est parfait comme réponse. En fait, le fork, au point de vue de Bitcoin, au point de vue de la blockchain du type Bitcoin, on va dire, appliquée aux crypto-monnaies, c'est une manière de comme régler des conflits en réalité. Le principal mécanisme qui existe pour mettre d'accord une communauté, c'est de la diviser en effectuant un fork et de voir qui c'est qui gagne. C'est bien, en fait, est-ce qu'on a d'autres manières d'interagir?
Je sais pas si t'es familier avec le concept de voice or exit. Bah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec la plupart des systèmes de gouvernance qu'on a à l'heure actuelle, comme les démocraties ou les trucs comme ça, c'est que la plupart t'offrent ou bien pas de voice ou bien pas de exit. Et en fait, t'as besoin des deux pour que ça marche. Donc le concept, peut-être les gens sont pas familiers, les gens qui vont écouter ça. Et si tu veux un système de gouvernance qui va bien, les gens qui participent ont besoin d'avoir au moins deux options, qui sont voice. Donc dire, en fait, dire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils pensent des règles actuelles, dire quel genre de règles ils voudraient avoir dans le futur, et exit, c'est-à-dire arrêter de participer au système et peut-être construire un autre système, enfin en tout cas partir, quoi. Et donc, si tu prends l'exemple des gouvernements démocratiques comme il y a au Canada ou en France ou des trucs comme ça, bon bah on a l'option de voice, parce qu'on a les élections. Donc, on peut dire, voilà, moi, je préfère tel candidat, ou je préfère tel autre candidat, ou quand c'est des trucs, quand c'est des lois importantes aussi, tu peux avoir des référendums. Donc, moi, je veux cette loi, je veux pas cette loi. Mais t'as pas d'option exit. Tu peux pas
Tu peux
dire,
pas
bah, moi,
adhérer.
j'ai pas voté pour ce gouvernement, donc je paye plus mes taxes jusqu'à ce que ce soit un des gars pour qui j'ai voté qui soit élu. Et je ne participe plus dans ce gouvernement. Ça, tu fais ça, tu vas en prison. Donc t'as pas le
T'as pas
t'as
l'exit.
pas le, t'as pas l'option exit. Comme je sais pas si t'es familier avec Coluche, je sais pas s'il est connu au Canada.
Oui, quand même, oui.
Il disait, tu sais, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Donc voilà, donc on est donc le système démocratique marche pas très bien parce qu'il n'y a pas d'option exit. Quand t'as pas l'option voice, c'est beaucoup, ça se passe beaucoup, c'est plus dans des business qu'ont des business models un peu foireux. Mais disons que t'es un magasin en ligne ou un truc comme ça, et t'as pas de moyens pour tes utilisateurs de te soumettre du feedback. Et ben, si jamais tu fais un truc qui est pas bien, tu vas avoir tous tes utilisateurs qui se barrent et tu sauras pas pourquoi.
Parce qu'ils ont que le exit à exprimer, ils
Parce
n'ont pas
qu'ils
le
ont que
vote.
l'option exit, voilà. Et donc ça, c'est pas des modèles qui sont successful aussi. Et donc, si tu veux avoir un système quelconque qui fonctionne bien, tu as besoin que les gens qui participent au système aient ces deux options. Et on a ça pour les crypto-monnaies, puisque bah t'as le voice, tu peux aller parler avec les gens sur différents médias sociaux ou des mailing lists ou des trucs comme ça à propos de comment le truc doit évoluer. Et t'as l'option de exit à travers les forks.
Alors là-dessus, là, tu dis qu'on a le voice. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je possède des Bitcoin Cash, en fait, je me sens un peu comme voiceless, genre comme si j'ai pas de voix, parce que c'est les mineurs qui votent au final. Moi, j'ai bien beau discuter avec du monde sur Twitter, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le cause toujours là, parce qu'au final, c'est eux qui vont voter avec leur machine, c'est eux qui ont des ASIC qui vont voter. Moi.
Oui et non, parce que ce qui se passe, c'est que le mineur, il est obligé de. Ça, c'est marrant. Je pense, c'est une fausse conception qui existe beaucoup dans la communauté BCH. Les mineurs, ils sont obligés de miner des trucs qui ont de la valeur. Ça coûte très cher de miner. Et du coup, les mineurs ont pas autant de pouvoir que les gens dans la communauté BCH pensent qu'ils ont. Parce que eux, de leur point de vue, s'ils écoutent pas le voice et qu'ils prennent des décisions, que eux ils veulent, en fait, ce qui va se passer pour eux, c'est qu'ils vont très vite se retrouver à miner une chaîne qui vaut que dalle.
Il y a moyen de, pour le mineur de voter en plus des transactions qu'il mine, d'envoyer une information en plus dans un bloc pour signaler son accord ou son désaccord avec une proposition.
Ouais, mais ça, c'est purement indicatif, hein. Ça ne...
Ouais, c'est ça, et c'est ce que tout le monde va regarder pour déterminer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Par exemple, je me rappelle, on va parler de Segwit2x là. Bah, pendant longtemps, on allait regarder les pourcentages. Ah, ils sont à 15%, ils
Ouais,
sont à
mais tu vois,
10%.
ça c'est effectivement la communauté BCH surtout faisait beaucoup ça, mais tu vois que au final, la plupart des mineurs ont signalé, il y a eu même plus de 50% des mineurs qui signalaient pour des blocs plus gros. Et puis après, tu as eu genre 90% des mineurs qui signalaient pour Segwit2x ou quelque chose comme ça. Et au final, c'est pas ce que le market a déterminé avait le plus de valeur, et du coup, c'est pas ce qu'ils minent à l'heure actuelle. Donc tu vois que
Comment tu peux nous détailler comment le market l'a exprimé et comment ça s'est ensuite
c'est le prix en fait. Ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, tu as BTC qui a des blocs qui sont petits, qui a une certaine valeur de marché. Tu as BCH qui a des blocs plus gros, tu as plein d'autres crypto-monnaies, le marché évalue ces monnaies à différents prix. Et ce qui se passe après, du coup, c'est que les mineurs vont miner ces trucs-là, non pas en fonction de leurs préférences, hein, mais en fonction du prix, quoi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent miner un truc pour des raisons idéologiques pendant une semaine ou deux, s'il faut, si tu veux. Mais ils peuvent pas faire
Ils ont
ça
des factures d'électricité.
pendant des années, voilà, parce qu'ils ont des factures à payer, ils ont du personnel à payer, ils ont des locaux à entretenir, donc ils peuvent pas. Et c'est une feature, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que Bitcoin fonctionne. C'est ça que je trouve marrant, parce que le fait que miner coûte cher, c'est une feature, parce que du coup, les mineurs ont énormément
C'est
de
la principale
pouvoir, non
feature,
pas
en fait.
décisionnel, mais de pouvoir exécutif, en fait. C'est eux qui, si tu devais comparer ça à un gouvernement,
C'est
c'est
en
eux qui
force.
appliquent les lois. C'est eux qui enforcent les lois, effectivement. Donc c'est le pouvoir exécutif. Ils ont énormément de pouvoir exécutif, mais ils n'ont pas tellement de pouvoir décisionnel, parce qu'à partir du moment où ils commencent à enforcer des règles avec lesquelles les gens sont pas d'accord, ils se retrouvent à dépenser une quantité de
Aminé tout
ressources.
seul.
Exactement. Et ça leur coûte très cher. Et du coup, c'est un mécanisme de check and balance qui marche plutôt bien. Mais du coup, toute l'idée du mineur décide, en fait, ça va complètement à l'encontre de ce système de check and balance qui existe dans Bitcoin. C'est pour ça que, enfin, je trouve que c'est une idée un peu bizarre. Hein.
Ok.
D'ailleurs, c'est marrant parce que la quote que tout le monde prend pour supporter cette idée dans le white paper, c'est dans la partie 12, je crois, c'est genre any rules and incentives can be enforced by this mechanism. Quelque chose dans genre, j'ai peut-être changé un peu, mais le mot qui est utilisé là-dedans, c'est enforce. C'est pas decided or chosen or whatever. Hein. Parce que c'est ce qui se passe en fait. L'incentive du mineur, c'est d'enforcer les règles que les participants dans le réseau pensent qu'ils ajoutent de la valeur au réseau en fait. Hein. Et ils n'ont pas tellement le choix sur le moyen long terme que de faire ça à cause de l'économie du système.
Très bien. Donc là, on a parlé de deux acteurs. On a parlé des utilisateurs, on a parlé des mineurs, mais il y a un troisième acteur important dans l'écosystème de Bitcoin et de Bitcoin Cash, c'est les développeurs. Donc les développeurs, eux, comme bah toi, tu les vois jouer quel rôle un petit peu dans toute cette affaire?
Alors si on reprend l'analogie un peu des pouvoirs que le gouvernement a. Donc les mineurs, ça serait le pouvoir exécutif. Le marché, ça serait le pouvoir judiciaire en fait. Si tu donc qui juge un peu la valeur des différents trucs et qui punit en vendant, ou qui récompense en achetant. Donc là, t'as le système judiciaire, c'est l'agrégat des gens sur le marché. Et les développeurs, bah c'est la branche législative du gouvernement quoi, parce que littéralement en tant que développeur, on écrit les lois du système en fait, on écrit des règles sauf que c'est pas des lois sur papier avec une constitution.
Et quelles règles vous écrivez exactement? Celles que les gens veulent?
On n'a pas le pouvoir judiciaire hein, donc si on continue l'analogie, si tu veux. Donc si on commence à écrire des règles que les gens sont pas contents avec, et ben ces gens vont partir en fait.
Mais par exemple, toi demain, ta journée, tu travailles sur, est-ce que ce sur quoi tu vas travailler est lié à ce que les gens veulent, ou est-ce que c'est toi qui décides et ensuite tu proposes et tu dis voilà ce que on a en ce moment, comme choisissez laquelle on va implémenter, montrez-moi laquelle est la plus celle que vous voulez, ou...
c'est un peu un mélange des deux, parce que ce qui se passe, c'est que donc déjà, bah, tu parles avec les mineurs, tu parles avec les business, les trucs comme ça. Tu essayes aussi d'avoir un peu un sens de ce qui se passe à propos de ce quoi les gens discutent et tout ça. Mais ces gens-là, en fait, ils viennent pas tellement te parler de qu'est-ce qu'ils veulent comme règle, très souvent. Genre, ils vont plus te parler de qu'est-ce qu'ils ont comme problème ou dans quelle direction ils veulent que le système s'améliore et tout ça. Et ils comptent un peu sur toi, en fait, pour essayer de trouver des règles qui vont bien. Et c'est normal parce qu'il y a un côté spécialisation, en fait. Hein. C'est-à-dire que toi, tu parles... on va prendre un exemple peut-être précis. Il y a eu le changement de format d'adresse qui a pris place il y a environ un an. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y a plein de business qui venaient vers nous en disant, ben voilà, les gens, ils confondent souvent
Bitcoin et Bitcoin Cash.
Les adresses Bitcoin et les adresses Bitcoin Cash, ils envoient l'un à l'autre ou l'autre à l'un, et du coup, après, ils contactent notre support, donc ça nous fait plein de travail en plus, en fait. Donc, ça serait bien qu'on puisse faire un truc différent. On peut pas dire à Bitcoin de changer son format d'adresse, donc on a changé le nôtre. Hein. Et après, derrière, on a eu des retours, notamment des compagnies comme BitPay ou Coinbase ou des trucs comme ça qui nous disent, bah voilà, nous, après, une fois qu'on a implémenté le changement d'adresse, en fait, on a 80% en moins de demandes auprès du support pour ce type de problème. Donc, c'est...
ça a marché.
Une petite amélioration pour eux, voilà. On peut dire que ça a marché. Mais du coup... ces gens-là, ils sont pas venus nous dire, bah voilà, nous on veut un format d'adresse qui est exactement comme ci ou comme ça, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, tu vois, ces gens qui ont ce problème, t'es là, bon bah d'accord, il faut changer de format d'adresse. Maintenant, tu dois te demander, bah qu'est-ce qu'on veut en fait dans ce format d'adresse, parce que c'est pas comme on va pas changer le format d'adresse, tu vois, tous les 6 mois. Donc il faut qu'on a l'opportunité ici d'introduire un nouveau format d'adresse si on a besoin. Il faut le faire de telle façon que passer dans le futur, voilà, que ça marche, quoi, parce que tu peux pas faire ça tout le temps. Donc, par exemple, une des limitations qui existe dans Bitcoin et Bitcoin Cash, c'est que la sécurité des contrats multipartis est de 80 bits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand t'envoies de l'argent à une adresse, cette adresse, elle a 160 bits d'entropie. Donc, c'est un hash de ta clé publique ou un hash du script qui fait 160 bits. Et donc, si c'est que toi qui décides, donc, enfin, quand je dis toi, c'est ton wallet, en fait, les algorithmes de ton wallet, décident quelle est la clé, calculent le hash, ils envoient ça. Ça, pour moi, pour essayer de casser ta clé, de retrouver ta clé, je suis obligé de faire un calcul qui, enfin, en termes de sécurité, on estime c'est 160 bits de sécurité. Donc ça, c'est considéré très sécure. Maintenant, supposons que au lieu que ça soit juste toi avec ton wallet qui génère une adresse, c'est tous les deux, on va faire un multisig avec des adresses à moi et des adresses à toi. Alors là, ce qui se passe, en fait, c'est que pour n'importe qui d'autre, c'est tout le temps 160 bits à péter. Maintenant, moi, je peux essayer de grinder plein d'adresses de mon côté, en fait, d'essayer plein d'adresses jusqu'à ce que je trouve une adresse qui combinée avec ton adresse, donne un hash particulier. Et je sais comment casser cette adresse, si tu veux. Et donc, ce type d'attaque, donc c'est pour les contrats multiparties, parce qu'on est deux parties. Pour qu'une partie attaque l'autre, c'est pas 160 bits de sécurité, c'est juste 80 bits.
C'est 80.
Et 80 bits, à l'heure actuelle, c'est considéré sécure, mais vraiment, tu
Limite.
vois, voilà, c'est limite. Si les ordinateurs continuent à devenir plus performants comme ils l'ont fait dans le passé, on sait que dans quelques années, ça va pas le faire. Donc du coup, il y a un problème. Voilà, par exemple, c'est un problème qu'on sait qu'on va avoir. Il va falloir passer ce truc-là à quelque chose qui est plus de 80 bits. Donc, on sait qu'on va devoir faire ça à un point dans le futur. Donc, il te faut un format d'adresse qui est capable de représenter ce genre de truc avec plus d'entropie. Tu vois, pas juste 160 bits. Donc, du coup, c'est le genre de truc. Tu vois, tu combines un peu tous les problèmes que tu connais, puis les problèmes que tu penses qui sont probables, tout ça, et puis tu essayes de faire un truc qui va résoudre tout ça, et puis bon là, tu proposes ton format d'adresse, et puis après voilà, beaucoup de gens, toutes les communautés occidentales l'ont adopté pratiquement en Chine, les gens aiment pas trop, parce qu'ils trouvent que le nouveau format est un peu plus long que l'ancien format, ils aiment bien le format plus court. Mais globalement, les gens qui demandaient ça étaient plutôt contents, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe si tu veux t'essayer de voir quels sont les problèmes des gens et de résoudre ces problèmes plus que. Pour revenir à ce qu'on disait, voilà, les gens ils viennent pas nous voir en disant voilà c'est tel format qu'on veut, mais tu compiles un peu tous les différents problèmes que les gens ils disent qu'ils ont, que tu sais que tu vas avoir dans le futur parce que tu connais le système et puis t'essayes de trouver une solution, quoi.
En parlant de ce genre de problème, moi je t'ai vu, il me semble que c'était ta présentation en juin dernier à CoinGeek où tu as parlé du temps de bloc. Et en fait, tu en avais aussi parlé auparavant, je crois que c'est dans un commentaire Reddit, j'avais vu ça, où auparavant tu étais plus pour diminuer le temps de bloc, mais dernièrement il semblerait que pendant l'été là ou un peu avant l'été, tu as changé d'avis. Donc le temps de bloc chez Bitcoin, ou c'est, j'ai mal compris.
Non, pas trop. Non, j'ai jamais été vraiment pour, mais je suis pour les raisons qu'il y a derrière. Donc les raisons qu'il y a derrière, c'est que tu veux avoir une finalité qui est plus rapide sur tes transactions. Le problème, c'est que si tu regardes ça avec l'approche des temps de bloc, tu peux diminuer les temps de bloc peut-être jusqu'à 1 minute, peut-être un peu moins qu'une minute, mais il y a le problème dont on a parlé avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de propager ton bloc et de le valider dans un temps qui est court devant le temps du bloc. Et donc plus tu réduis le temps entre deux blocs, et plus c'est difficile en fait, plus les contraintes que tu as en termes de propagation et tout ça deviennent sévères. Et donc au final, quand tu fais ça, tu as un trade-off entre quelle est la vitesse à laquelle j'obtiens une finalité et quel est le scale que je peux avoir. Donc si tu diminues le temps de tes blocs, en fait, tu sais que ton plafond en termes de scaling, il est plus bas. Par contre, tu as une finalité qui est plus rapide. Donc ça, il n'y aurait pas de meilleure solution, pourquoi pas, mais ce n'est pas un trade-off qui est idéal. En plus, on sait d'un point de vue pratique que voilà, si on veut payer directement, avoir une interaction directe entre deux personnes, faire un paiement, il faut que ça dure quelques secondes, quoi, tu vois. Si ça dure plus de 5 secondes, c'est pas terrible comme expérience. Et d'ailleurs, il y a pas mal de recherches qui ont été faites par les gens qui travaillent dans les cartes de crédit et tout ça, quoi. Et en gros, ce que tu t'aperçois, c'est que les gens perçoivent une expérience assez dégradée après 3 secondes, quoi. Et après 5 secondes, il y en a plein qui pensent que ça marche plus, en fait. C'est-à-dire que genre ils enlèvent la carte du truc en se disant bon, ça marche
Essaye.
pas, ou voilà. Donc, ce qui semble être la norme pour les gens qui utilisent les paiements, c'est que moins de 3 secondes, c'est bien. entre 3 et 5 expériences dégradées, et au-delà de 5, il y a plein de gens qui pensent que c'est pété, quoi. Ça marche plus.
Et puis la stratégie ici, c'est plutôt que de changer le temps de bloc, c'est faire en sorte de faire fonctionner le instant confirmation ou le zero confirmation dans le réseau.
Exactement, parce que tu peux pas faire, il y a aucun moyen de faire des blocs de 3 secondes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas marcher, en fait. Parce qu'il faudrait que tu sois capable de propager ton bloc sur le réseau
en bien moins de 3 secondes.
Dans un temps qui est négligeable devant 3 secondes.
Ouais.
Et ça, c'est juste des contraintes qui deviennent complètement absurdes, en fait. Et tu peux pas faire ça. Donc, tu pourrais peut-être faire, tu vois, 30 secondes ou quelque chose comme ça. 30 secondes, ça serait vraiment, je sais plus combien ils sont à Ethereum, mais ils sont à quelque chose comme ça, 25 ou 30 secondes,
Ouais,
quelque
même
chose
un
comme
peu
ça.
moins que 30 en fait. Hein.
Et déjà, ils ont été obligés d'introduire un système de, ce qu'ils appellent, système d'oncle. Parce qu'ils ont un orphan rate qui est plus élevé, enfin voilà, ils ont été obligés de faire pas mal de choses en fait pour que ça marche, et ils sont vraiment à la limite de ce que tu peux faire, quoi. Et donc apparemment à la limite de ce que tu peux faire avec, genre si tu peux changer tout ce que tu veux dans le système, la limite de ce que tu peux faire, ça semble être un peu moins de 30 secondes. Et donc ça va pas, quoi. Tu vois, ça t'amène toujours pas dans la range des temps qui va bien, quoi. Tu vois. Et donc c'est ce qui m'a fait dire, bah voilà, tu vois, il y aurait pas d'autre solution, pourquoi pas. Mais en fait, il semblerait qu'un système de préconsensus, ça soit plus, ça résout les mêmes problèmes en fait, mais t'as pas ce trade-off avec le scaling, au contraire, puisque les nodes entre eux sont mieux synchronisés. Du coup, c'est plus facile de transmettre un bloc. Donc ça aide aussi du côté du scaling, alors que réduire la taille des blocs, ça rend le scaling plus difficile. Et ça te permet d'accéder à des temps de quelques secondes pour la confirmation, qu'est-ce que tu veux, alors que réduire la taille des blocs, ça permet pas d'aller là. Donc c'est un peu la conclusion à laquelle je suis venu assez tôt, quoi. J'ai jamais été vraiment pour, du coup, mais bon, il faut considérer les idées quand même, tu vois, les
Oh.
gens. C'est un peu bizarre parce que tu dis, par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé, en novembre, si voilà, si le truc avec le hashwar, tout ça continuait, est-ce qu'il faudrait pas changer l'algorithme qui est utilisé pour le proof of work?
Donc juste pour préciser, l'algorithme, au cas où, il est commun avec Bitcoin et puis maintenant Bitcoin SV aussi. Donc c'est toutes les mêmes machines. Si quelqu'un possède une ferme de minage Bitcoin, il est capable de switcher facilement de l'une à l'autre. Et on a évoqué un peu les problèmes que ça peut créer pour les plus petites chaînes.
Exactement. Donc l'idée, c'est, il y a des gens qui disaient, bon bah voilà, si jamais ça crée trop de problèmes, peut-être qu'on peut switcher à un autre algorithme. Et donc évidemment, c'est un peu une option nucléaire, quoi, parce que d'un coup, tous les mineurs qui t'ont supporté, tu leur dis fuck you, tu
Ouais.
vois. Et
Et puis on parle de Bitmain aussi là, non? Bitcoin Cash a quand même le support de Bitmain.
le support de Bitmain, ouais. Ceci dit, ce serait pas forcément mal pour Bitmain en fait, puisque pour Bitmain,
Oui,
ça
non.
serait une opportunité de vendre des nouvelles machines
De
qui
nouvelles
font autre
machines,
chose.
c'est vrai.
Donc, je sais pas si ça serait si négatif que ça pour Bitmain. Ceci dit, Bitmain, c'est aussi un gros mineur de SHA-256. Donc, j'ai pas accès à leur comptabilité, je peux pas te dire. Mais je sais pas, c'est pas forcément le pire pour Bitmain, mais pour d'autres mineurs, ça serait désastreux. Donc, c'est vraiment le genre d'option dans laquelle tu veux aller, une fois que tu as épuisé les autres options et que ça n'a pas suffi, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai répondu, enfin, je sais plus comment je l'ai dit, mais je dis, bon, c'est un peu l'option nucléaire, quoi, voilà,
On essaie la diplomatie avant, peut-être.
à la limite, c'est sur la table, mais bon, si on peut éviter de l'utiliser, ça serait bien, quoi. Mais du coup, direct, les gens, ils sont là, ah oui, alors, Amaury considère changer l'algorithme de proof of work et tout, machin, c'est pas vraiment ça, tu vois, mais faut toujours garder l'esprit ouvert, tu vois, parce qu'il faut pas être dogmatique, genre ah, c'est comme ça que ça marche, ça a toujours marché comme ça, jamais changé, ça c'est pas comme ça que tu fais les meilleures décisions.
Très bien, très bien.
Donc, voilà, de la même façon, j'ai trouvé un peu l'idée des temps plus courts, mais je pense qu'on a des trucs mieux sur la table.
Moi, je me demande si tu peux pas nous en dire un petit peu plus sur, par exemple, les liaisons entre, pour vous, ce que ça veut dire, cette hash war au niveau du dev, et puis pour nous, de l'extérieur, nous, comment on le voit. Est-ce que, par exemple, toi, le fait qu'il y ait une hash war, ça t'affecte personnellement en tant que développeur au niveau de, je sais pas moi, ton salaire, par exemple? Est-ce que ça change la manière dont les décisions sont prises? Et est-ce que ça risque de changer vraiment beaucoup l'avenir de Bitcoin Cash?
Je pense que oui, ça va changer pas mal de choses. parce que déjà les acteurs qui sont à la table, c'est plus les mêmes que auprès de l'année dernière. Donc forcément, t'as des acteurs différents, ça se passe un peu différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont montré, comment dire, choses are true color, et en anglais.
Ils ont montré qui ils sont vraiment.
Voilà, parce que ce qui se passe, c'est que bon, je sais pas si t'as suivi, mais il y a eu tout ce hachoir, il y a eu énormément de diffamations qui ont été faites contre nous, contre Bitcoin.com, contre Bitmain, contre d'autres gens.
Il va même y avoir une poursuite judiciaire, on dirait aussi.
Voilà, maintenant ils veulent faire des poursuites judiciaires. Et puis de l'autre côté, tu vois, t'as des gens qui sont là, ouais, bon, on vous supporte, mais quand même, c'est pas terrible. Vous êtes presque aussi pire qu'Enchain, tout ça. Bon, tu sais que ces gens-là, bon, tu sais où ils sont, ces gens-là, quoi. Voilà, ils te supportent après la guerre, quoi. Alors, on a ce.
Ok.
Je sais pas s'il y a cette expression au Canada, mais en France, on dit, tu sais, en 46, tout le monde était un résistant, quoi.
Ok, non, je vois très bien ce que tu veux dire. En tout cas, je le comprends bien. Je comprends. Après la guerre, on est tous là. Ouais, ouais, moi, j'étais avec eux. J'étais avec l'équipe.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, t'as un peu de ça qui est en train de se passer en ce moment. Donc, c'est très bien. Ça permet de voir les acteurs avec qui on va vouloir bosser ou pas. Bosser plus. Enfin, tu vas collaborer plus ou collaborer moins en allant devant. Je pense que ça va permettre aussi d'être sûr que la roadmap est plus stable aussi. Ce qui a été un truc que j'ai appelé pour depuis le début. Donc, c'est très bien. Maintenant, tous les gens qui veulent faire leur roadmap, ils font leur truc. Mais nous, on a une roadmap, c'est faire du digital cash, c'est améliorer les zéro conf, améliorer le scale.
Est-ce qu'il y a des acteurs ou des acteurs, on va dire, des entités qui sont critiques et essentielles pour que Bitcoin Cash continue à exister?
Comment ça,
Par exemple, c'est par rapport à l'idée, par exemple, Bitmain, on pourrait penser qu'ils supportent énormément Bitcoin Cash. Est-ce que si demain Bitmain dit c'est terminé la Bitcoin Cash, nous on prend plus parti, on veut plus savoir, on a plus de support particulier pour cette équipe ou cette coin par rapport aux autres, est-ce que ça pourrait mettre en péril l'avenir de Bitcoin Cash, par exemple?
C'est sûr que si t'as un acteur important comme Bitmain, ou si t'as, disons, BitPay ou Coinbase qui dit on drop le support, c'est sûr que ça serait mauvais, quoi.
Mais est-ce qu'il y en a un qui est prépondérant là? Il y en a un qui est vraiment vraiment important là?
Je pense pas qu'il y en a un qui est remplaçable, non. Mais okay. Surtout, enfin, j'ai envie de dire surtout en ce moment, quoi, parce qu'en ce moment c'est le bear market, hein. Donc là, n'importe quel acteur qui drop en ce moment, c'est sûr que c'est difficile. Heureusement qu'il n'y en a pas trop, quoi. Tu vois, ça serait en décembre last year, n'importe qui s'en va, c'est pas grave.
Pas grave, ouais.
À cette époque-là, tu vois, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile, mais ça, je pense pas que c'est pas spécifique à ce qu'on fait. Si tu demandais à des gens qui bossent sur Litecoin ou Dash ou je sais pas quoi, je pense qu'ils te diraient la même chose.
Roger Ver, il est important comment dans Bitcoin Cash? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui fait quelque chose pour Bitcoin Cash qui est important, ou qu'est-ce que t'en penses, toi, de... Parce que c'est que de lui qu'on entend parler, hein, quoi.
Ben voilà, alors Roger Ver, il est très bon pour pousser le message, je dirais. Il sait se faire voir, il sait gérer les médias, il sait pousser ça dans différents business aussi. Il y a plein de business qui sont mis à accepter BCH parce que Roger Ver les a tamés aussi. Donc,
quand tu dis les a tamés, c'est littéralement, ou tu veux juste dire qu'il arrive bien à vendre le produit?
Non, ouais, il a bien vendu le produit, puis il a les bons contacts aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans l'industrie depuis toujours. Je veux dire, même maintenant, il supporte plus BCH que BTC, mais même à l'époque où il était derrière BTC, il a probablement converti plus de gens que n'importe qui d'autre, quoi. Je sais pas si tu sais, les gens l'appellent Bitcoin Jesus, je sais pas si tu sais d'où ça vient. En 2010, 2011, 2012, tout ça, il allait dans la rue parler de Bitcoin aux gens et leur faire installer un wallet et leur en donner des trucs comme ça. Et du coup, comme il allait prêcher dans la rue, en fait, les gens se sont mis à l'appeler Bitcoin Jesus. Mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'adoption de Bitcoin et Bitcoin Cash. Donc c'est sûr que plus d'avoir avec nous, ça serait un peu dommage. Ceci dit, au début, il se portait Segwit2x, lui, même si il a toujours été sympathique à Bitcoin Cash. Je crois que même leur pool a permis de le miner assez tôt, tout ça. Mais Au début, sa bataille principale, disons, c'était C8UX. Après que C8UX a été annulé, il a tout redirigé vers le Bitcoin.
Bitcoin Cash avant. Ouais. Et est-ce qu'il joue pas un rôle un peu trop central au niveau de Bitcoin Cash? Tu sais, il y a toujours, tu prends Ethereum, c'est Vitalik, je crois, il y a toujours une personne qui centralise beaucoup les opinions et puis la direction même d'une crypto. Et puis c'est positif dans certains cas, puis tout d'un coup ça devient peut-être pas très positif parce que c'est
Ouais,
toujours.
alors il est très visible, mais en tant que...
En interne, est-ce qu'il joue vraiment un rôle où il pousse
Non,
plus en.
justement,
Ok.
la plupart de son temps, il passe tourner vers l'extérieur, je dirais, plus que essayer de se mêler des affaires internes.
Très
Il est
bien.
vraiment orienté vers aller parler à tout le monde, essayer de convertir le plus de business et de gens possible. C'est sa mission.
Très bien. Donc maintenant, post-fork, là, on a Bitcoin Cash, on a SV. C'est quoi le plus gros challenge maintenant auquel fait face Bitcoin Cash?
Je pense que ça n'a pas changé en fait. Hein. C'est
Toujours
toujours le même.
scalabilité, instant conf, les deux?
Alors, d'un point de vue technique, ouais, c'est ça. Mais je dirais que c'est pas le plus gros challenge. Je pense que le plus gros challenge, il est plus d'un ordre social. Parce que je vois la communauté Bitcoin Cash, ce que j'appelle un système immunitaire qui est pas très fort. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est ramassé Craig Wright, parce qu'il y a énormément d'autres communautés. Je veux dire, la communauté Ethereum et la communauté Bitcoin lui ont montré la porte très rapidement. La communauté BCH est beaucoup plus inclusive, mais je dirais peut-être à l'extrême. Et c'est un peu dangereux du coup, parce que tu ramasses pas mal de gens qui sont pas forcément les gens que tu voudrais, quoi. Et évidemment, Craig, c'est le plus visible dans ce cas-là, mais c'est pas le seul. Alors le deuxième problème que tu as avec ça, c'est que si je commence à dire, bah voilà, moi je pense que cette personne et cette personne et cette personne, c'est pas les bonnes, après direct, le message que ça envoie, c'est que je veux prendre tout le contrôle du truc et virer, tu vois, virer des gens que je... Et puis ça n'aide pas du tout aussi, parce que tu voudrais que la communauté apprenne à reconnaître ces gens-là en fait, parce que sinon tout ce que ça crée, c'est que toi tu dis qui c'est qui peut être invité ou pas en fait, et après le jour où tu te gourres, déjà tout est foutu. Mais aussi à un moment, il faut que toi-même tu sois aussi, je trouve pas mes mots, mais tu vois, je veux dire, si moi je commence à faire n'importe quoi, il faut que les gens ils viennent vers moi et me dire d'arrêter de faire des conneries aussi, quoi.
Ok. Mais tu décris un petit peu plus ce que tu veux dire par rapport à la communauté de Bitcoin Cash, parce que c'est quand même une communauté un peu particulière au niveau des cryptos. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que tu vois des problèmes dans la communauté de Bitcoin Cash?
Ben en fait, ce qui se passe beaucoup, il faut comprendre, c'est lié aussi un peu à comment la communauté est née. Au moment, en 2015-2016 par là, il a commencé à avoir beaucoup de censure sur énormément de plateformes de discussion autour de Bitcoin, contre les idées tu vois, d'agrandir la taille des
Augmenter la
blocs.
taille.
Voilà, donc ça s'est passé sur Reddit, ça s'est passé sur Bitcoin Talk, qui était le plus grand forum, ça s'est passé sur d'autres trucs. Donc il y a beaucoup de place qui a été utilisée beaucoup sur les discussions autour de Bitcoin, qui ont commencé à être censurées contre les opinions sur les plus gros blocs. Et du coup, évidemment, tout ce qui est, voilà, on exclut telle personne, ou on veut plus entendre parler de telle personne, ou quoi, machin, bah, ça passe très très mal dans la communauté BCH, d'un point de vue de cette histoire, quoi. Mais du coup, je pense que, tu vois, c'est l'histoire qu'il faut trouver une bonne balance, quoi. Tu vois, tu veux pas exclure plein de gens parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées, mais en même temps, tu veux pas accepter tout le monde parce que, y a des gens qui sont clairement là pour foutre le bordel et pas pour contribuer de façon constructive. C'est toujours difficile de trouver un peu une balance, et je pense que la communauté BCH est encore, tu vois, complètement... Disons que la communauté Bitcoin, elle est complètement dans un sens, ils n'acceptent personne. Si t'es pas, tu vois, si tu suis pas le bon programme, si tu, enfin, tu vois, il y a des trucs, genre, Bitcoin, c'est un store of value, si tu veux augmenter la taille des blocs, tu dégages. Enfin, tu vois, il y a,
Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté comme directement?
ouais, tous les gens qui ont travaillé sur l'agrandissement de la taille des blocs. Hein. Mais tu vois, Bitcoin, la communauté est très très sûre. est très très assertive aussi dans l'affirmation de ses valeurs sur voilà qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils construisent et qu'est-ce qu'ils veulent. Et si tu dévies de ces valeurs, très vite tu te retrouves exclu de la communauté Bitcoin. Je pense qu'ils sont un peu extrêmes parce que du coup ils vont exclure plein de gens qui auraient une influence positive. Donc ils sont un peu sur un extrême, mais je pense que la communauté Bitcoin Cash est un peu sur l'autre extrême en fait. De dire bah non, tu peux pas exclure les gens parce que tu vois tu sais pas peut-être qu'ils ont raison, il faut écouter tout le monde et tout, mais sauf que tout le monde n'est pas forcément, tu vois, égal, tout le monde n'est pas forcément égal en termes de compétences et en termes de value que tu peux apporter au système. Tout le monde n'est pas aussi tout le monde n'a pas des bonnes intentions, quoi. T'as des gens qui sont là pour foutre la merde. Donc je pense qu'il y a une balance à trouver, et Bitcoin est un peu trop d'un côté, BCH est un peu trop de l'autre côté. Et je pense à l'heure actuelle, c'est le challenge, pour revenir à la question, c'est le challenge majeur de Bitcoin Cash à l'heure actuelle, c'est de trouver une meilleure balance, parce que sinon Bitcoin Cash va se faire infiltrer de façon répétée par des gens comme Cold Wright, et à chaque fois ça va finir en une grosse explosion massive, et éventuellement ça peut tuer le truc. Je veux dire, c'est ça. Le dernier truc que tu veux pour ton argent, c'est d'être complètement imprévisible. Ok, là.
On est tous d'accord là-dessus. Si c'est du cash, il faut que je puisse payer la même quantité mon café aujourd'hui et demain.
Exactement. Et donc, et d'ailleurs, on le voit là, Bitcoin Cash a été très imprévisible au cours des derniers mois ou quoi. Et même si c'est le bear market, Bitcoin Cash a baissé plus que d'autres cryptos comparativement. Et pourquoi? Je pense, après, c'est toujours un peu risqué de faire ce genre de, de faire ce genre d'analyse, mais je pense qu'une grande partie est due, à l'incertitude qu'il y a autour de BCH. Je veux dire, si c'est déjà la merde, tu veux être dans des assets qui sont plus safe plutôt que moins safe, quoi, tu vois. Et donc, si tu sais pas. Je pense que c'est la majeure raison pour laquelle BCH a baissé plus que certaines autres cryptos.
Bon, nous de l'extérieur, actuellement la crypto c'est genre, allez, on va arrondir le market cap à 200 milliards de dollars, et encore le market cap c'est une mesure virtuelle, ça veut absolument pas dire que c'est la quantité d'argent qui a été injectée dans ce marché. En gros, là où je veux en venir, c'est le discours qu'on connaît, la crypto c'est une goutte d'eau, c'est encore minuscule, et actuellement c'est une technologie qui est au tout début de son développement. Et tu sais, si tu vois ça de l'extérieur, là, il y a maintenant 3 bitcoins et ils se parlent pas. T'as Bitcoin Core, t'as maintenant Bitcoin Cash et puis t'as SV. Et il y a des problèmes entre eux, ils se mettent dessus et tout, alors que tout l'écosystème qui sont en train de tous promouvoir, il est encore minuscule. Ma question pour toi, c'est toi qui es un acteur au sein de l'une de ces équipes qui est de cet écosystème. Est-ce que tu penses que ça va être possible à un moment que genre tout le monde se dise ah ben mince, en fait on est minuscule, faudrait qu'on résolve, on a tous les mêmes problèmes en réalité, tu sais, la scalabilité, c'est pas que Bitcoin Cash qui a ce souci, hein, c'est ce que tu expliquais toi-même, qui se mettent d'accord pour réussir à comme explorer ces voies ensemble de manière plus collaborative, ou est-ce qu'en fait c'est ça la collaboration, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est ça la collaboration dans un monde décentralisé? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Non, alors ce qui se passe, c'est que on crée un truc nouveau qui n'existait pas avant, tu vois, il y a quelques années, il y a un truc complètement nouveau, donc il y a aucune industrie, il y a rien du tout. Les gens qui sautent là-dedans en premier, c'est les gens qui ont des tolérances au risque très élevées. C'est des profils particuliers en fait. C'est pas n'importe qui fait ça. Et donc je pense que c'est aussi là, c'est la crise qu'on a à l'heure actuelle avec tous ces forks et tous ces machins. Je pense que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est la transition entre ce que les têtes brûlées veulent et ce qu'un public plus large veut.
Donc le début de la stabilité?
Oui et non. Moyen terme, oui. Mais tu sais, c'est comme quand t'es malade et que t'as de la fièvre, tu vois. Après, t'es guéri, mais d'abord, t'as de la fièvre.
Ok, je vois.
À l'heure actuelle, on a de la fièvre.
Ok, je vois. Du coup, là, pour l'avenir de Bitcoin Cash, qu'est-ce qui nous attend dans les mois qui viennent ou l'année qui vient?
Ouais. Pré-consensus, je pense que ça va être un des...
Donc ça va être implémenté?
Ouais, c'est de l'implémentation a déjà commencé.
Ok.
Ceci dit, ça va prendre un peu de temps. Puis tu vois, d'abord, ça va être une fonctionnalité expérimentale que t'actives en option. Et puis, ça va prendre un moment. Mais si tu mets un timescale de 6 mois à 1 an, c'est 6 mois, ça sera probablement, tu vois, développé en tant que fonctionnalité expérimentale et 1 an probablement déployé sur le réseau. Sauf si, tu vois, sauf si on rencontre un... Mais normalement, ouais, 6 mois, 1 an. D'ici 6 mois, 1 an, on devrait avoir pris consensus. Ça veut dire confirmation en quelques secondes pour les transactions. Alors ça, c'est un peu plus abstrait, mais ça ouvre certaines portes pour le scaling aussi.
Que tu vas-y.
Ouais, parce que en fait, ce qui te limite en tant que scaling, c'est combien d'informations tu as besoin de transmettre et de processer quand tu trouves un bloc. C'est vraiment où est-ce que ta limite elle est. Et donc, il faut que tu te démerdes pour avoir le moins d'informations à transmettre et à valider possible quand tu trouves un bloc. Ça veut dire que plus tu te mets d'accord sur un nombre important de trucs avant que le bloc soit trouvé, et moins tu as besoin de transmettre d'informations et d'en valider quand tu trouves le bloc. Parce que du coup, quand tu trouves le bloc, tu peux envoyer un message, tu as mis d'accord, mais il y a cette transaction en plus et ces deux transactions en moins.
Très bien. Bah, merci pour ton temps, Maurice. C'était vraiment intéressant. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se faire un appel, d'ici quelques semaines ou quelques mois. Il y a pas mal d'autres points dont j'aurais bien aimé qu'on discute. Tu vois, par exemple, là, j'ai envie de parler de c'est quoi les différences, en fait, entre ce nouveau système qui est construit sur Avalanche de pré-consensus et puis le Instant Payment de Dash, par exemple, avec les quorums qui se font pour permettre le Instant Payment. Bref. Mais je pense qu'on a déjà 2 heures. Je vais probablement couper ça en 2 épisodes. Mais ouais. Je te recontacterai probablement pour qu'on se refasse un appel prochainement. En tout cas, c'était vraiment intéressant là.